Chapitre 17 Le premier feu. À peine avais-je mis le pied à terre qu'une frayeur rétrospective me submergea, irrépressible. Ma nature revenait comme la marée haute au mont Saint-Michel, au galop. J'avais eu beaucoup de chance, mais je savais que je n'étais pas vraiment à mariner. Ce personnage intrépide ne me ressemble pas. Mais il va falloir que je lui ressemble, puisque c'est moi. Je vais vivre désormais avec mon double, le marin qu'on veut voir et saluer. On me convie partout, pas moi, mon double, parfaitement amariné, qui parle à ma place et raconte ses virevoltes entre les récifs. Mon double n'a peur de rien. J'ai peur de tout. Ma constitution n'a pas changé. Le personnage est un renifleur d'écueils. Je n'ai pas de flair. J'ai eu de la chance, une chance inouïe, c'est tout. Entre mon double et moi, la tension monte. Je l'accuse de tricher. Il me reproche de ne pas me hisser à sa hauteur. L'un des deux va gagner. Peu à peu, il me grille la place. Le hérisson s'escamote. On le prend pour un lion. Ce qui, dans les salons de Brest, produit une belle impression. Mon double va se dépouiller de mon caractère recroquevillé. Il finit par se glisser en moi et s'échanger contre ma nature. Tel qu'on le regarde, il apparaît vaillant, indomptable, téméraire, ardent. Il connaît le succès. Alors, je vais renoncer à moi-même et jouer à mon personnage, plus avantageux en société. Partout, on me réclame. Mon double et moi sommes deux fois plus sollicités qu'avant mon heureux naufrage. C'est ainsi que naquit chez les gens de mer le nouvel Athanase. Il ne me restait plus qu'à naître à mon nouvel état. À partir de ce moment-là, il m'est arrivé souvent d'aller souper à l'hôtel de la marine à l'invitation de monsieur et madame Hector. Un soir, j'assistais à une conversation qui faisait écho aux controverses de l'Académie de marine entre deux géants de la mer, M. Hector et M. de la Motte-Piquet. Ils disputaient sur la guerre à faire aux Anglais. Le ton montait. « Je ne comprends pas, cher Hector, pourquoi le roi veut m'envoyer à Cadix. Je préférerais une course entre les Sorlingues et les Açores. » Si près des côtes anglaises? Pour une nouvelle tentative de débarquement? Non, plutôt pour couper leur convoi de marchandises qui viennent de l'Amérique. Un coup d'épingle, cher Piquet, sans influence sur le cours de la guerre. Il est temps maintenant de frapper des coups décisifs. Le coup serait certainement plus décisif que mon séjour sur un rocher d'Espagne. Je ne crois pas que la guerre d'escadre puisse nous donner un avantage irréversible. Le plus sûr moyen, selon moi, de vaincre les Anglais, c'est de les attaquer dans leur commerce. Je serai beaucoup plus nuancé. Je pense que la guerre de course ne remplacera jamais la guerre d'escadre, pas plus qu'une guerre d'embusquée n'a jamais périmé la guerre des corps d'armée. Vous qui êtes chasseur, Hector, vous savez bien que si on se contente de se promener en grand appareil sur les chemins en attendant que le gibier vienne à vous, on revient avec le fusil plein et la gypsière vide. Il faut battre les fourrés. Eh bien moi, je propose de battre les fourrés de l'océan. À cause du butin? Non, je m'engage volontiers auprès de vous à laisser ma part aux équipages. Je ne veux travailler que pour la gloire et le bien de l'État. Vous connaissez comme moi les nouvelles parvenues à Paris hier soir sur les événements qui se sont déroulés à Saint-Eustache. Rodney rentre en Angleterre. Il n'y a pas 1000 routes pour y faire retour. Il suffira de détourner l'attention des Anglais et de fondre sur eux. Je ne connaissais pas Saint-Eustache ni les dernières nouvelles parvenues à Paris, mais le nom de Rodney vibrait dans ma tête. Comme un épourail à matelot. Il y avait en face de moi deux guerres d'Amérique qui s'affrontaient. le corps de bataille et la division flottante. La ligne est la prise. L'escadre est la course. Un amiral académique et un amiral d'embuscade. Hector et la motte piquée. Les événements s'étaient accélérés. Les renseignements avaient sans doute fait mûrir les esprits. Les deux amiraux prirent congé l'un de l'autre. Je restai quelques instants avec M. Hector. Il s'amusait à l'idée d'avoir appelé son vis-à-vis par son vrai nom qui était Piquet de la Motte. Il en a changé parce que les matelots se moquaient de lui en riant sous cap. Celui-là, il est Piquet de la Motte. Il n'empêche, Piquet de la Motte avait obtenu carte blanche. Et ce fut pour moi une chance inattendue d'apprendre, dans les jours qui suivirent, mon ordre d'embarquement sur le Hardy dans l'escadre de M. de la Motte Piquet. Aux côtés de mon capitaine, M. de Silence, je lui fus rendre mes devoirs. Il me mit dans le secret sur la destination de l'escadre volante. Juste remis de l'indisposition qui l'avait empêché de se joindre à l'escadre de Grasse, en route pour l'Amérique, il aurait eu tous les titres pour la conduire. Il me le confia, avec l'amertume du vieux soldat. « J'ai 47 ans de service. 30 campagnes de long cours, 11 combats, 6 blessures, une résidence continuelle au département. » C'est vrai que dans les rues de Brest, on le couvrait de témoignages avantageux. Réputé pour sa simplicité confondante, il me combla d'égards et d'encouragements. En réalité, il était habile à la prise comme à l'épée. Sur ses états de service figuraient des noms illustres, Wesson, Savannah, la Grenade. Il emportait les stigmates sur son corps labouré de cicatrices, avec cette joue dépouillée par un coup de canon qui lui avait d'ailleurs coupé le chapeau au ras de la tête. D'où son nom, devenu un surnom, Piquet de la Motte. Et cette respiration encombrée, provoquée par un biscaïen reçu en pleine poitrine. Sa santé semblait altérée. Il était fort sujet à des attaques de gouttes. En le quittant, je remarquai sa petite taille. Il avait dû faire des efforts sur lui-même pour conquérir l'autorité. Il sentit ma gêne en prenant congé. « Charette, vous êtes grand de taille. Soyez-le de bataille. » L'appareillage eut lieu au printemps 1781. J'embarquai à bord du Hardy un 64 canons. L'escadre, qui s'élançait pour confondre les pirates d'Albion, comprenait le Bien-Aimé, l'Actif, et aussi le Lion, l'Alexandre, la Talente, l'Invincible, avec ses 110 bouches à feu. Mais quelle pouvait donc être la bonne route pour intercepter les convois anglais? Les corsaires de l'océan qui chassent les pirates recherchent une aiguille dans une meule de foin. Il faut de la chance. Alors, bonne chance aux vigies qui, tout en haut de leur mât, scrutent l'horizon pour détecter là-bas un petit point dans l'eau et, en s'approchant, un beau cortège de bâtiments à visiter. Mais la mer est vaste. Par bonheur, le génie intuitif de l'amiral de la Motte Piquet nous mérita une fortune rapide, inattendue. Pas une fortune de mer, une fortune de prise. Le long des côtes cantabriques, un cri embrassa la mâture. Les vigies signalèrent des voiles au vent du Hardy et de la Talente. 34 navires marchands et 4 bâtiments qui paraissent être de guerre. L'amiral donna immédiatement l'ordre de chasse. Nous étions sur le bon fourré. Il fallut frapper du bâton, faire donner le canon. C'est l'Actif qui engagea l'escorte. Le commandant de Silence avait revêtu son grand uniforme de gala, de bal et de bataille. Il était ceint de son épée et arborait ses croix.